Livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, et nous commencerons la lecture au verset 1er. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de Saba. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord, persévérait dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. On pourrait continuer au chapitre 2, au verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On pourrait arrêter là notre lecture. Nous avons lu, mais vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit n'est pas une puissance, bien sûr, il est Dieu, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. Je crois que si tous ceux qui se réclament aujourd'hui du christianisme, toutes les religions, tous les mouvements, toutes les personnes qui se réclament du christianisme, étaient réellement des témoins de Jésus. Des témoins de Jésus-Christ. S'ils ne se dispersaient pas, si leur vie avait pour but de refléter le Seigneur et de semer l'Évangile autour d'eux, il y aurait beaucoup de pécheurs qui seraient convaincus de péché, qui passeraient par la repentance et qui passeraient des ténèbres à la lumière. C'est pourtant notre raison d'être d'ici-bas. C'est notre raison d'être des disciples, c'est la raison d'être des disciples, que de vivre l'Évangile et de partager la bonne nouvelle du salut. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ, appelée à refléter la gloire du Seigneur, à être la lumière du monde. Qui d'autre que nous pourrait rendre témoignage de l'œuvre de Christ ? Qui d'autre que nous ? Être un témoin, bien sûr, vous le savez bien, ça ne signifie pas connaître quelques versets bibliques. Vous avez des gens qui connaissent quelques versets bibliques. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Bon, leur foi s'arrête là, quoi. Ils ont cadré un passage biblique, et puis c'est fini. Ils ont oublié tout le reste. Et non, la parole de Dieu est un tout. Quand le Seigneur dit celui qui croira, il y a une pensée bien plus large que la croyance en un Christ historique. Il y a quelque chose de bien plus complet. Il ne s'agit pas non plus d'avoir seulement un langage chrétien. Vous avez des gens, ils nous étonnent par leur langage. Et ils nous étonnent moins par leur vie, quelquefois. Mais ça, c'est autre chose. On les entend parler des églises. On les entend parler des pasteurs. Ah, c'est pas toujours bien, malheureusement. Quelquefois, quand même, ils en parlent bien. Ça arrive, hein. Et puis, ils parlent des chrétiens aussi. En bien ou moins bien. Mais ça, c'est pas être témoin de Jésus-Christ, témoin de l'Évangile. Le témoin de Jésus-Christ, c'est celui qui atteste par sa vie et par ses paroles que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, venu en chair pour mourir sur une croix par amour pour nous, venu faire l'expiation de nos péchés, venu payer le prix de nos péchés à notre place. C'est quelqu'un qui affirme que Christ est ressuscité pour notre justification, pour nous justifier devant le Père, qu'il a versé son sang pour nous. C'est quelqu'un qui peut dire, Jésus m'a pardonné, et Jésus te pardonnera aussi, si tu te repens de tes péchés. C'est quelqu'un qui peut dire, Jésus m'a sauvé, et Jésus va te sauver, si tu viens à lui. Tout son être de témoin, finalement, est modelé par le Saint-Esprit, il est utile à l'œuvre de Dieu. Il n'est pas devenu un robot. Il n'est pas devenu un robot. Dieu se sert aussi de sa personnalité pour sa gloire. Un témoin, on pourrait dire, c'est celui qui rend visible la beauté de Jésus-Christ. Il est appelé à ça. Il est appelé à ça. C'est pas quelqu'un qui a atteint la perfection, mais il y a en lui ce désir d'avancer vers la ressemblance de son maître. Il ne se contente pas de son état spirituel. Il a des désirs spirituels. Il désire ressembler à son Seigneur, afin qu'il n'y ait pas dans sa vie de décalage entre ce qu'il dit et ce qu'il est. Il vit par la foi. Il a une vie motivée par l'amour. Il vit dans la soumission à la volonté de Dieu, dans l'obéissance à sa parole. Si on prend l'image du tabernacle, je pense que vous avez en tête un petit peu le tabernacle que Israël a construit dans le désert, hein, le parvis qui était entouré comme une palissade, et puis il y avait la tente au milieu, le tabernacle par lui-même, qui était composé de deux lieux, le lieu saint et le lieu très saint. On pourrait dire que le parvis, c'est le lieu du témoignage. C'est le lieu du témoignage. Sur le parvis, on va témoigner de ce qu'il y a à l'intérieur du tabernacle. Dans la parole de Dieu, il est parlé de l'arche du témoignage. Et l'arche, c'est un type de Jésus-Christ. Et cette arche, elle était dans la tente du témoignage, elle était dans le lieu très saint. Notre témoignage, c'est Christ. C'est d'abord une personne. L'Évangile, c'est pas une religion, c'est d'abord une personne, c'est d'abord Jésus-Christ. Mais comment pourrions-nous cacher son existence s'il vit en nous? Est-ce que les apôtres ont caché son existence? Pas du tout. Hein. Une fois qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit, on voit quand même Jean, par exemple, dans sa première épître. Il dit ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé de nos mains, contemplé et que nos mains, pardon, ont touché concernant la parole de vie, nous vous l'annonçons. Nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez aussi en communion avec nous. Ce que nous avons entendu, ce que nos yeux ont vu, est-ce que nous l'annonçons? Nous sommes des témoins de Jésus-Christ, nous sommes là pour cela. Est-ce que nous préférons nous fondre dans la masse pour ne pas nous faire remarquer? Ah, il ne faut pas se faire remarquer, même bien passer discrètement dans ce monde. Eh non, c'est pas ça. Hein. Où sommes-nous vraiment disposés à être des témoins de Christ? Des témoins du Seigneur, attachés à sa parole. Et même si ça nous coûte quelques critiques, quelques moqueries, nous, on est quand même dans un pays qui est assez libre. On peut quand même s'exprimer, enfin, un peu encore, je ne sais pas si ça durera. Mais dans certains pays, si vous parlez de Jésus, si vous donnez une Bible, vous retrouvez en prison. Nous qui avons la pleine liberté de le faire, est-ce que nous le faisons? Et même, pour certains, c'est la mort. Je lisais sur un site internet qui justement est spécialisé dans les persécutions que connaissent les chrétiens. Ils disent que tous les 5 minutes, vous entendez bien, tous les 5 minutes, un chrétien meurt dans le monde à cause de sa foi. Tous les 5 minutes. Vous vous rendez compte, ça fait 40 minutes qu'on est là, divisé par 5. Peut-être qu'il y a 8 chrétiens qui sont morts. 8 frères ou sœurs. Je crois que nous avons besoin de prier pour eux. Ça doit être un de nos sujets de prière. Ils ont besoin de nos prières. Que le Seigneur nous fasse grâce et que nous qui avons les libertés, que nous sachions en profiter. Nous avons réellement comme but d'être des témoins de Jésus-Christ. Quand on voit le ministre éthiopien qui était venu à Jérusalem et qui s'en retournait sur son char et qui ne comprenait rien à ce qu'il lisait, il avait le livre du prophète Ésaïe, il ne comprenait pas, qui c'est celui-là, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là, je ne comprends rien. Et Philippe est venu, bien sûr, vers lui pour lui expliquer l'Écriture. Mais il avait vu le parvis du temple, cet homme-là. Il avait vu le parvis. Mais il n'avait pas rencontré le Dieu du temple. Il n'avait pas fait de rencontre avec Dieu, repartait à vide. Jésus avait chassé les marchands quelque temps avant, bien sûr, ils avaient chassé du parvis, mais ne rêvons pas, très certainement, ils étaient vite revenus, réinstaller leur commerce, hein. Quel témoignage Israël avait apporté à cet Éthiopien? On peut se poser la question. Oui, notre parvis, c'est ce que les autres voient de nous. C'est aussi ce qu'ils entendent. Alors, on peut leur apporter la plus belle des vérités, mais si notre parvis est encombré par les choses d'ici-bas, s'il est encombré par des choses de néant, notre témoignage n'est pas très lumineux. Hein. Il devient un message obscur pour le monde perdu. Il ne peut y avoir de lumière sur le parvis de mon témoignage que dans la mesure où mon être intérieur est éclairé par l'Esprit du Seigneur. Et dans ce cas-là, ça se voit à l'extérieur. Amen. Ça se voit sur le parvis et ça s'entend. Nous avons besoin d'être vraiment consacrés, consacrés au Seigneur. Est-ce que nous sommes prêts à le suivre? Bien sûr, on se peut poser bien des questions. Et quelquefois, il y a des questions qui sont utiles quand même. Certes, on se pose quelquefois des questions inutiles, mais il y en a qui sont utiles. Hein. Sommes-nous prêts à le suivre, même si on ne comprend pas forcément les voies que le Seigneur veut nous faire emprunter? On veut tout comprendre, on veut tout savoir, on veut tout. Mais, quelquefois, les hommes de Dieu, on le voit dans, quelquefois dans leurs livres, qu'ils ont suivi des voies qui ne comprenaient pas trop où ils allaient, mais le Seigneur les conduisait. ils étaient prêts à faire sous la direction de son esprit des œuvres qui n'étaient pas dans leurs habitudes. On est très attaché quelquefois à nos habitudes. Puis on dit en général que les gens qui prennent de l'âge sont attachés aux habitudes. Moi je connais des jeunes, ils sont déjà attachés à leurs habitudes, qui ne sont pas toujours très bonnes. Est-ce que un chrétien, c'est un chrétien du dimanche qui laisse sa Bible et son témoignage dans le tiroir toute la semaine? Non, bien sûr que non. Hein. L'apôtre Paul a dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pour quelle mauvaise raison pourrions-nous taire un message qui a la puissance de changer les vies, de bouleverser les existences dans le bon sens et d'arracher les gens à une éternité de tourment? Pour quelle mauvaise raison pourrions-nous taire ce message-là? Il est si merveilleux. On ne peut pas dire que les gens hésitent à exprimer leurs convictions, leurs sentiments quand même dans le monde où on vit, là, dans notre pays. Vous voyez, il y a souvent des manifestations dans les rues. Les gens crient leur mécontentement. Ils crient ce qu'ils désirent. Et puis, quelquefois, leur animosité envers le pouvoir et chef d'État. Hein, c'est comme ça que ça se passe dans les villes. Et nous, nous sommes la lumière du monde. Amen. Et Dieu n'a pas mis son feu en nous pour que nous gardions enfermés, mais pour le faire briller au dehors. Matthieu 5 nous dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ne peut être cachée. Et voyons que dans les actes des apôtres, l'évangile se répandait malgré les menaces. Pourtant, ils avaient affaire à forte partie, malgré l'opposition. Le salut, l'évangile qu'ils avaient expérimenté n'était pas un secret qu'ils gardaient pour eux ou qu'ils cachaient, bien au contraire. Alors on est dans un pays, il faut le reconnaître, on est dans un pays où les gens disent « on ne parle pas de religion chez moi ». Eh oui. Ils veulent bien encore à la rigueur parler un peu de politique. Mais de religion, non. Ça, c'est des choses qu'on ne parle pas. Hein? J'ai un voisin qui m'a dit ça il n'y a pas très longtemps. La religion, non, ce n'est pas des choses dont on parle. Voilà. Mais Jésus-Christ, c'est une religion. C'est une personne, amen, une personne bénie. C'est le sauveur du monde. C'est le sauveur du monde. Amen. Gloire au Seigneur. Alors la Pentecôte, il y a eu du bruit. Il y a eu du bruit. Au point que la foule est accourue. Pour que la foule accourt, il a fallu que ça s'entende. Il y a eu un vent impétueux, des langues de feu, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils ont reçu la puissance par le Saint-Esprit. Il faut remarquer toutefois, c'est leur obéissance, leur disposition à la prière. Leur disposition à la prière. Ils ont reçu par l'Esprit la force d'être des témoins, même au prix de leur vie. Ils ont pu partager avec efficacité ce qu'ils avaient reçu, même au prix de leur vie. Regardez Étienne, le premier martyr chrétien, devant le Sanhédrin, il était rempli du Saint-Esprit. Son visage était illuminé. Et ces gens-là, malgré cette beauté qu'ils voyaient en Étienne, ils l'ont lapidé. Mais rempli du Saint-Esprit, il a pu dénoncer l'incrédulité d'Israël. Il a pu dire aux chefs religieux qu'ils étaient des meurtriers. L'Église parle d'un réveil. L'Église attend un réveil. Mais je crois que si elle ne bouge pas, elle peut attendre, pardonnez-moi ma franchise, vous dire ce que je pense profondément, mais je crois qu'il faut commencer à entrer dans une logique de disciple. être obéissant, soumis à la parole, ayant à cœur la prière avec les frères et sœurs, afin que nous voyons ces choses s'accomplir. Qu'est-ce qui est écrit dans Actes 1, 14 ? Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus, ils persévéraient dans la prière. Pas chacun de leur côté. Ensemble. Ensemble. Nous voudrions voir un réveil, mais est-ce que nous n'imposons pas nos conditions à Dieu ? Nous voulons bien voir un réveil, mais nous ne voulons pas changer nos petites habitudes, notre manière de vivre. Il faut être prêt, je crois, à se consacrer entièrement au Seigneur, prêt à accepter une manière de vivre différente selon que l'Esprit nous y conduira. Dieu envoie le réveil et le Saint-Esprit se manifeste là où des hommes se repentent de leur tiédeur. Avant, vous savez, ils se frappaient la poitrine, ils déchiraient leurs vêtements. Là, maintenant, on est dans la Nouvelle Alliance. Hein. C'est déchirer vos cœurs et non vos vêtements. Hein, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Dieu envoie le réveil là où il y a des hommes, des femmes qui s'assemblent pour prier et chercher sa face ensemble. Ensemble. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un cadeau du Seigneur. C'est une grâce. Il n'y en a pas un seul qui peut dire « Moi, je l'ai mérité. » Moi, je ne l'ai pas mérité, en tout cas. C'est une grâce. C'est une grâce de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de recevoir le Saint-Esprit pour le plaisir d'avoir le Saint-Esprit, pour marquer sur notre carte de visite « Baptisé du Saint-Esprit » le temps. Hein? Il ne s'agit pas de ça. Vous savez, on a vu quelquefois certains qui essayaient de parler en langue. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. J'étais complètement à côté de la question. Le parler en langue n'est que la manifestation extérieure d'une plénitude intérieure. Voilà. Alors ça vient tout seul, ça s'exprime tout seul. Quand l'être humain est plein, il arrive en gros, il déborde. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Il nous est donné l'esprit pour que nous soyons des témoins remplis de force et de hardiesse. On voit Pierre, qui lui avait renié son Seigneur devant une servante, rendez compte, et qui le jour de la Pentecôte, là, devant la foule réunie, là, pour peur, là, il annonce la vérité. Vous l'avez tué, etc., en le pendant vous. Il n'a pas peur de dire la vérité, l'annonce, l'évangile. Gloire au Seigneur, les jours-là, il y a 3000 personnes qui se convertissent. C'est extraordinaire, une belle moisson, une belle pêche pour Pierre et pour l'Église, bien sûr, pour l'Église de Jésus-Christ. Je crois que l'Esprit est donné à ceux qui aspirent, qui ont ce désir avant toute chose. C'est ce qui m'est arrivé. Vous savez, je n'ai pas été baptisé du Saint-Esprit dès que j'ai été baptisé d'eau. Il a fallu du temps. Moi, j'ai le cœur dur, certainement. J'espère que vous n'êtes pas comme moi. Le cœur dur, c'est long. Le Seigneur a du boulot avec moi. Je réagis pas très vite. J'étais baptisé du Saint-Esprit, oh, je ne sais plus combien, 10 ans, peut-être. 10 ans. Vous vous rendez compte? 10 ans. Quelle horreur! Quel sale bonhomme! Vous vous rendez compte? Mais quand j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, je le désirais plus que tout! Tout le reste m'indifférait! Je voulais le baptisé du Saint-Esprit, je voulais recevoir la puissance du Seigneur dans ma vie. Et voilà, le Seigneur, dans sa grâce, m'a exaucé. Mais il a attendu que je le désire, que j'aspire réellement. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. On entend ces slogans dans le monde, hein. Tous ensemble, tous ensemble. Vous avez entendu ça? Tous ensemble avec leurs divergences. Mais que c'est beau quand des chrétiens sont assemblés tous ensemble. Qu'ils sont imprégnés de la bonne parole de Dieu. Que l'image de Christ que son divin caractère apparaît sur leur front. C'est merveilleux qu'ils sont remplis de son amour, qu'ils sont unis par son esprit. On peut dire que le cœur du Père est réjoui. Le cœur du Père est réjoui. Ouais, mes frères, vous savez, il y a toujours des gens qui essaient de nous casser un peu. Le frère, ce titulu, ce vœu, ce créateur, c'est pas possible de très unis. Oh, puis il y a le frère un tel, la soeur un tel. Bien sûr, c'est à chacun de se remettre en question devant le Seigneur afin de ne pas résister au Saint-Esprit, afin de ne pas être un obstacle à la bénédiction, mais un canal de la bénédiction dans le corps de Christ. Quand nous suivons le ministère des apôtres, il y a des moments où nous voyons qu'ils ont été à nouveau remplis du Saint-Esprit. Ils ont été à nouveau remplis du Saint-Esprit. Ils avaient déjà reçu le baptême du Saint-Esprit, ils avaient déjà reçu l'Esprit. Et Dieu les a rendus particulièrement. Ils ont reçu un revêtement de puissance, un renouvellement qui leur a apporté un puissant encouragement dans les circonstances difficiles qu'ils traversaient, qu'ils connaissaient. Alors bien sûr, il n'existe pas de formule miracle, de recette miracle pour être rempli du Saint-Esprit. Nous devons simplement rechercher la face du Seigneur dans la louange, nourrir notre vie de prière, nous nourrir de la parole de Dieu, mettre en pratique la parole de Dieu. Ce sont des choses qui attirent la présence et l'onction de l'Esprit, qui créent un contexte favorable à la manifestation de la puissance de Dieu en nous et au travers de nous. Et puis, celui qui est baptisé du Saint-Esprit, combien il lui est important de continuer à parler en langue. L'apôtre, il dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Que de chrétiens ont été baptisés dans le Saint-Esprit et aujourd'hui, ils ne disent plus un mot en langue. Quel dommage. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, c'est écrit. Bien sûr, dans l'Église, l'apôtre, il va trouver l'équilibre. Il dit, dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence que 10 000 en langue. Bien évidemment, il y a tout l'équilibre. Mais il dira par ailleurs qu'il parle en langue plus que tous. Il se fortifiait, il s'édifiait, l'apôtre Paul. Il savait. Et il y a des chrétiens qui ne savent pas aujourd'hui, qui ont oublié, qui négligent ce qu'ils ont reçu. Nous sommes appelés à être remplis du Saint-Esprit. Vous connaissez ce passage d'Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. La version Semeur a traduit, mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Je crois que nous sommes appelés à veiller sur le feu que nous avons reçu. Nous sommes appelés à l'alimenter. Même à Timothée. L'apôtre pouvait dire, pourtant Timothée c'était un homme sérieux, un jeune homme sérieux, il lui disait, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu. Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu. Autrement dit, maintiens en vie le don de Dieu. Alimente le feu que tu as reçu. Oh, Dieu nous demande rien d'impossible, il sait bien nos limites, hein. Il les connaît peut-être même mieux que nous. Nous, quelquefois, on ne les connaît pas trop. C'est dans la mesure où nous faisons don de notre vie au Seigneur que nous lui permettons de prendre pied et place dans nos cœurs, que nous vivons avec lui une relation authentique, une relation vraie, que le caractère de Jésus s'exprime en nous et que par l'Esprit il y met son sceau. Il y verse son amour et son esprit. Celui qui est né de nouveau est en Christ, et Christ est en lui. C'est une merveille. Merci Seigneur, quelle grâce, quel privilège. Mais le Seigneur veut aussi le remplir de son esprit pour qu'il soit un témoin efficace. Jésus nous a laissé cette promesse. Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Amen. Et le mot confesser, c'est le mot homolego en grec. Et homolego, ça fait homologuer dans notre langue, homologuer, ratifier, celui qui me confessera. Amen. C'est un mot très fort. Devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Et l'apôtre a dit à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Alors là, s'il y a de la timidité encore en nous, il faut l'éjecter. Hein. Il faut l'éjecter. Mais un esprit de force, d'amour, de sagesse. Chouraki a traduit, non, Elohim ne nous a pas donné un souffle de peur. L'esprit, c'est le souffle. Noma. C'est le souffle, l'esprit. Mais de dynamisme, d'amour, de pondération. Amen. C'est pas un souffle de peur qu'il nous a donné. Amen. C'est pas un esprit de timidité, gloire au Seigneur. C'est un esprit de force, d'amour, de sagesse. Et je crois que dans la mesure où le Saint-Esprit nous remplit et nous conduit, nous sommes utiles et efficaces à l'œuvre de Dieu. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous aide. Qu'il y ait chez nous ce désir non pas d'accomplir ce qui nous passe par la tête, mais avant toute chose, de déposer toute chose au pied du Seigneur. Et puis lui demander de nous diriger, de nous conduire, de nous donner, de savoir aller vers ceux qui ont besoin d'entendre ce message de l'Évangile. Il y a des multitudes qui courent à la ruine. C'est terrible, quand on y pense, quand même. C'est quelque chose de terrible. Nous sommes appelés, tant que nous sommes sur terre, c'est notre mission. Nous sommes des témoins de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous fasse grâce. Amen.